pour cette deuxième journée, après avoir réfléchi ensemble sur notre vocation baptismale, en fait, c'était de ça principalement qui était question hier, cet appel qui s'adresse et qui résonne en chacun de nous, dans le secret de nos cœurs, à travers ce baptême que nous avons reçu, la manière dont il vient prendre corps en nous, prendre chair dans notre chair, cet être spirituel qui, lentement mais sûrement, se tisse en lien avec notre être charnel, nous préparant ainsi à la transfiguration de la vie éternelle. Je propose de réfléchir ensemble un peu sur, finalement, ce qu'est l'Église dans son acception humaine, dans son acception divine aussi. Parce que finalement, si le Seigneur nous appelle, on aurait pu imaginer qu'il nous appela les uns et les autres, en nous mettant en parallèle les uns et les autres, en nous disant, ben voilà, cher ami, fais ceci, cher ami, fais cela, etc. Et que nous n'ayons en fait pas à avoir de lien particulier les uns avec les autres, or il n'en est rien. Le Christ nous appelle personnellement et il nous appelle à une communion. En fait, l'Église, elle est dans le monde la révélation de la communion que Dieu veut avoir avec sa création. Et l'Église, elle n'a d'autre sens dans le monde que d'être le lieu où se révèle le cœur de Dieu. C'est vraiment la raison d'être de l'Église, c'est de porter cette mission d'être le révélateur du cœur de Dieu. Alors, je vous signale au passage un petit bouquin que je trouve absolument formidable, qui est un père franciscain, Arnaud Corbic, qui a écrit un livre assez bref mais très dense sur la théologie, enfin un aspect de la théologie de Dietrich Bonhoeffer, donc un pasteur luthérien allemand que vous connaissez, j'imagine, pour certains d'entre vous, qui est mort en 1945, qui a été pendu sur ordre express d'Adolf Hitler et qui s'était dès 1933 insurgé contre le nazisme au cours d'une conférence radiophonique à Berlin, restée célèbre parce que interrompue par la police politique nazie, dans laquelle il mettait en garde ses concitoyens sur le fait que le guide, voilà, dès lors qu'il usait de malice, pouvait devenir le tentateur et celui qui pervertit. Voilà. Bref, Bonhoeffer a beaucoup travaillé la question de la grâce, la question de la communion, et alors ce livre, qui s'intitule « Le Seigneur des non-religieux », voilà, est une tentative de compréhension et de traduction, si je puis dire, de la pensée de ce théologien allemand sur l'Église et sur la mission de l'Église. Alors bien sûr, le luthérien, il n'est pas catholique, mais enfin tout de même, il est intéressant. Et il y a des choses à nous dire, vraiment, vraiment très. C'est très impressionnant, c'est très décapant. On y reviendra un peu tout à l'heure, mais je vais vous le citer. Il se trouve encore, parce que je l'ai trouvé l'autre jour, il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas où il est édité. Bref, enfin, oui, voilà. C'est le Seigneur des non-religieux, Dietrich Bonhoeffer. Si, EF, je peux se dire EF. EF, édition franciscaine. On va dire ça. Donc l'Église, c'est au lieu de la communion, voilà, comme lieu de la révélation de la communion à laquelle Dieu veut appeler l'ensemble de sa création. C'est très important ça, l'ensemble de sa création. On avait jusqu'à... C'est intéressant aussi de voir à quel point l'Église est une réalité vivante qui ne cesse depuis 2000 ans de se réfléchir et de se regarder, non pas dans un narcissisme maladif, quoi, parfois ça peut lui arriver, mais avec ce désir de mieux comprendre, en se regardant elle-même, chercher à contempler le visage du Christ, et mieux comprendre quelle est la mission qui lui est confiée. Et on voit comment cette compréhension de l'Église par elle-même a permis une évolution même de ce qu'est l'Église dans le monde depuis 2000 ans. On en est aujourd'hui témoin, c'est-à-dire qu'on voyait bien à quel point la manière dont l'Église existait à l'époque apostolique, la manière dont elle existe au Moyen-Âge, après le Concile de Trente, au XIXe siècle, puis depuis Vatican II, tout cela est évidemment un mouvement. Voilà. L'Église, elle s'inscrit dans le monde. Et elle ne s'inscrit pas dans le monde pour être en vis-à-vis du monde, mais elle s'inscrit dans le monde pour révéler au cœur du monde le cœur de Dieu, le projet de Dieu sur le monde. Alors, cette Église, parmi les définitions qui sont données d'elle, il y a celle que saint Paul propose dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, que vous pourrez reprendre, enfin, qu'on va reprendre rapidement, parce qu'on ne va pas lire tout le chapitre 12, mais qui est cet hymne magnifique, qui commence par cette phrase, au sujet des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Ça tombe bien, parce que ce serait quand même dommage qu'on soit ignorant des dons spirituels que le Seigneur nous promet. Vous le savez bien, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné sans contrôle vers les idoles muettes. Et maintenant que vous êtes empli de la grâce du Christ, dans le même esprit, voilà les dons de cette grâce que je vais décrire pour vous. Ils sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Hier, on évoquait ce don de la foi par le baptême. C'est très important d'avoir ça en tête. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Chacun d'entre vous, vous avez reçu cette capacité à manifester l'Esprit, à laisser l'Esprit se manifester en vous en vue du bien. Chacun de vous est capable. Mais chacun de vous est au-delà de notre cénacle de cet après-midi. Voilà. Chacun, chaque homme, chaque femme est capable, par l'Esprit Saint en lui, d'agir en vue du bien. C'est l'axe absolument majeur de la pensée pauline et de la pensée chrétienne. Voilà. De considérer que chacun peut agir en vue du bien grâce à l'Esprit Saint. Pas par ses simples mérites, mais par l'Esprit Saint qui habite en lui. Et donc toute la question, elle va être de savoir comment permettre à chacun de pouvoir non seulement accueillir l'Esprit Saint, et c'est l'immense débat qui traverse l'Église depuis 2000 ans, est-ce qu'il faut pour cela baptiser l'humanité tout entière, ou quoi d'autre? C'est quand même une vraie question. Dès lors que vous dites que c'est l'Esprit Saint qui rend chacun capable d'agir en vue du bien, et que le don de l'Esprit Saint... il est donné par le baptême sacramentel et donc par le don de la foi, voilà, qui permet à l'Esprit Saint de pouvoir agir en nous. Est-ce que ça veut dire que seuls les baptisés peuvent agir ainsi? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut baptiser tous ceux qui ne le sont pas? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres moyens? Mais on va mettre du temps à répondre. Des débats théologiques infinis sur ces questions-là. Voilà. Puis on va arriver à une dernière étape qui n'est pas la dernière de la réflexion, mais qui est la dernière dans notre chronologie, qui est l'étape de Vatican II. Qui va dire, en gros, il va dire, si le baptême est nécessaire pour que la grâce puisse agir pleinement dans le cœur de l'homme, en revanche, nous constatons, et nous devons que reconnaître, que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir aussi dans le cœur des hommes et des femmes qui ne sont pas membres de l'Église, voilà, au sens où nous le sommes par le baptême. Et ça, vous voyez bien que Dieu trace un chemin, ouvre un chemin possible pour tous ceux qui le cherchent avec bonne volonté. C'est vrai, les hommes de bonne volonté. Et c'est de là que naît toute la capacité de pouvoir créer un dialogue interreligieux, de pouvoir penser le monde différemment. Mais on voit bien à quel point tout ça est encore et reste des vraies questions et sujets de débat qui parfois nous divise avec beaucoup de violence entre nous. Et revenons à ce passage de saint Paul. Donc, vous avez reçu l'Esprit qui agit en vous en vue du bien. Quand Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, il s'adresse à qui? Il s'adresse à des hommes et des femmes qui vivent dans la ville la plus la plus riche et la plus renommée de l'Empire. On disait à l'époque vivre à la Corinthienne, ce qui était vraiment vivre d'une manière douce et agréable. C'était une ville où il faisait bon vivre, ville de culture, ville de loisirs, ville d'argent, ville de luxe, de volupté. Et donc les chrétiens qui sont dans cette ville de Corinthe, ils sont assaillis en fait, comme nous le sommes dans les villes où nous vivons, par cette espèce de tension qui les habite entre vivre à la Corinthienne ou vivre en disciple de Jésus-Christ. Et tout de suite, quand Paul fonde ses communautés, quand Paul suscite les premières églises, il suscite des églises en rappelant à ceux qui les composent que s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent être les disciples de Jésus. Autrement dit, on n'est pas dans l'église parce qu'on adhère à une association culturelle, ou sportive, ou une amicale de loisirs. On est dans l'église parce qu'on veut suivre Jésus-Christ. Ce qui est le point commun de tous ces hommes et toutes ces femmes, et du coup ça nous relie aussi à ce que je disais, à ce que nous réfléchissions hier, ce qui est le point commun de tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont dans les communautés chrétiennes de Corinthe et d'ailleurs, et je l'espère aujourd'hui encore pour beaucoup de ceux qui sont dans la communauté chrétienne de notre société, c'est qu'ils veulent suivre Jésus-Christ. Pas qu'ils adhèrent à une association culturelle et loisir. Ils veulent suivre Jésus-Christ. Et ils découvrent, parce qu'ils veulent suivre Jésus-Christ, que le moyen de le suivre, c'est en Église. Et c'est bien pour ça qu'on peut dire hors de l'Église, pas de salut, non pas qu'il n'y a pas de salut possible hors de l'Église, mais que pour ceux qui veulent suivre Jésus, et qui veulent le suivre selon la forme à laquelle les évangiles les appellent, cela n'est possible que dans le cadre de l'Église, non pas d'une Église pyramidale et hiérarchique, mais d'une Église qui est le lieu de la communion, parce que l'Église révèle le lieu de la communion entre les uns et les autres. Parce que l'Église nous fait découvrir cette dimension tout à fait surnaturelle, en fait, et inhabituelle pour nous, c'est que nous ne sommes pas frères parce que nous nous aimons, mais nous sommes frères pour nous aimer. Autrement dit, contrairement à toutes les réalités humaines, associatives, amicales, sympathiques, desquelles nous pouvons faire partie tout à fait légitimement, nous ne sommes pas rassemblés parce que nous nous aimons, mais nous nous rassemblons pour apprendre à nous aimer. Mais c'est pas du tout la même chose. Moi, quand je suis chaque dimanche dans la paroisse, que je vois l'assemblée devant moi, je me dis, et je suis sûr que si je vous posais la question à vous aujourd'hui, j'aurais le même débat. Si je disais au cours de l'homélie, alors on va prendre 10 minutes pour réfléchir ensemble, pour savoir par exemple si Macron est un bon président. Je suis sûr que assez vite tout le monde s'engueule. Assez facilement. Si je vous posais des questions sur le plan sportif, sur le plan artistique, sur le plan culturel, sur toutes les questions possibles, économiques, peu importe, vous auriez toutes les raisons possibles de vous engueuler les uns avec les autres. Ce serait bien naturel parce que, précisément, on n'est pas ici parce qu'on partage des goûts communs. On est rassemblés parce qu'on sent que le Christ, celui qu'on essaye de suivre et qu'on a envie de suivre, il nous rassemble pour nous dire, regarde-le, regarde-la, c'est lui ton frère, c'est elle ta sœur, et c'est lui que tu vas apprendre à aimer. Parce que, pour que le Christ révèle au sein de l'Église le projet d'amour pour les hommes que Dieu a, eh bien il faut que ce révélateur qui est l'Église soit le lieu où l'amour s'exprime. Le plus en vérité, et l'amour véritable, c'est pas d'aimer ceux qui vous aiment. Ça, comme le dit Jésus dans le sermon sur la montagne, les païens font ça remarquablement. Si vous ne savez que ceux qui vous saluent, franchement, les amis, vous n'avez aucun mérite. Vous êtes des gens bien élevés, c'est tout. Bon, ben voilà, pas de quoi en faire un fromage. Quoi. Non, le sermon sur la montagne, c'est pas de faire le bien que les autres font. C'est à celui qui te hait, aime. Celui qui te demande, donne plus encore. Joue droite, joue gauche, vous connaissez la suite. C'est ça l'amour véritable. C'est ça l'amour C'est cette manière de vivre-là qui laisse transparaître l'amour dont Dieu aime. Sinon, on fait du bisounours, on fait un truc, c'est bien, c'est un amour, c'est bien, c'est... voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand quelqu'un tombe, on le relève. Franchement, c'est... faire de ça un acte héroïque, c'est franchement ce fiche du monde. C'est la moindre des humanités. Ce qui est dingue, c'est qu'on ne le fasse plus. C'est pas qu'on le fasse. Donc, faut reprendre les choses à leur vrai niveau. Par contre, faire du bien à son ennemi, ça c'est très compliqué. Ça c'est très... Et d'ailleurs, la première réaction, c'est qu'on dit, bon, ça, ok, j'entends ça. D'ailleurs, c'est assez amusant d'ailleurs de voir que cette phrase-là, je suis droite, je suis gauche, c'est quand même entre cathos, peut-être le verset de l'évangile sur lequel on blague le plus. On dit, ouais, c'est quand même n'importe quoi ce truc, quoi. Voilà. Jésus il le fait, mais nous, bon, quand même, voilà. Pas poussé non plus, quoi. Intéressant d'intéresser, de réfléchir sur le pourquoi on essaie de tourner ça un peu en ridicule, comme pour se disculper, nous-mêmes, de vouloir y réfléchir vraiment. Et pourquoi ? Parce que, en fait, cette phrase-là, peut-être plus que toute autre, parce qu'elle nous parle d'une violence physique, et c'est la violence physique qui nous impressionne le plus, en fait, et qui nous fait le plus frémir, surtout dans nos sociétés où on en est quand même hyper protégé, bien plus que jamais dans l'histoire. Parce que cette violence physique, elle nous ouvre sur une compréhension qu'on redoute, qui est que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et que donc ceux qui répondent à l'appel de Jésus qui leur dit « Viens, suis-moi », ils savent au fond d'eux-mêmes que ce « suis-moi » il passe par la croix. Parce que si nous sommes appelés à suivre le Christ et si nous répondons à son appel, nous savons par où lui passe. Et donc si nous voulons le suivre, nous savons par où nous devons passer à sa suite. Et ça, on n'en a pas du tout envie. Alors tout ce qui peut nous laisser imaginer une telle perspective, on préfère l'écarter poliment et se focaliser sur des choses plus simples, ou qui nous apparaissent plus simples. En disant, oui, il faut nous aimer les uns les autres. Mais pardon, ça c'est quand même un peu creux. Mais concrètement, ça veut dire quoi? D'ailleurs, la phrase, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous les uns les autres, comme moi, dit Jésus, je vous ai aimé. Et donc ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si j'arrive à aimer les autres, c'est de savoir comment Jésus m'a aimé, pour essayer d'aimer les autres comme Jésus m'a aimé moi. Et là, vous voyez, c'est là où l'Église a cette mission et cette fonction de révélation dans le monde du cœur de Dieu. Et donc, je le disais tout à l'heure, la question de l'amour fraternel est une question absolument essentielle. Alors, je fais... Une aparté, parce que précisément, le contexte dans lequel nous nous trouvons est évidemment particulier. C'est-à-dire que vous avez, pour la plupart d'entre vous, éprouvé certainement des difficultés, ou des rejets, ou des angoisses. Voilà. À pouvoir être accepté tel que vous êtes, non seulement parfois dans vos familles, dans la société, mais dans l'Église elle-même. Et avoir le sentiment qu'il fallait... cacher une partie de vous, en taire une autre, ou en tout cas vous montrer discret, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir trouver, comme on dit, votre place dans l'Église. Or, quand on entend saint Paul parler, on se dit, mais en fait, chacun, naturellement, a sa place dans l'Église, puisqu'il a sa place dans le cœur de Dieu. Mais vous avez expérimenté que ce n'est pas si simple dans le concret, dans le quotidien. Et que parfois, quand on est soi-même, on a ce sentiment de pouvoir être rejeté, de pouvoir être exclu, de pouvoir être jugé, naissent en nous, dans nos cœurs, le désir d'une revanche, d'une colère, en tout cas, ou d'une blessure qu'on a du mal à cicatriser. Il ne s'agit pas tellement de la cicatriser, il s'agit de l'ouvrir, même cette blessure, au regard même de Dieu. Et dans la pauvreté que cette blessure... elle vient faire naître dans nos cœurs, parce que à chaque fois qu'on est blessé, on découvre à quel point on est pauvre, par nos désirs de vengeance, par nos colères, par nos découragements, voilà, par tout un tas de sentiments qui peuvent traverser notre cœur. Voilà. Et on voit à quel point on est pauvre. On aimerait réagir différemment, et en même temps on n'y arrive pas. Voilà. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir, voilà, en tout cas, essayer de présenter ça sous le regard de Dieu en disant ce que moi je n'arrive pas à faire, essaye de nous donner de faire à travers toi. Voilà. Viens à mon aide. Viens à mon aide pour qu'en tout cas, je ne reproduise pas ce dont moi j'ai souffert. C'est-à-dire que moi qui ai été rejeté, je ne sois pas l'occasion de rejeter d'autres en retour. Et que le mal qu'on m'a fait, je ne cherche pas à le rendre. Et c'est ça l'amour. Quand on dit aimer son ennemi, il y a des choses très concrètes hein, qui naissent à ce moment-là. Celui qui m'a fait du mal, Seigneur, aide-moi à ne pas lui vouloir du mal. Et aide-moi à être vraiment ce que tu m'appelles à être, un instrument de ta paix et de ta miséricorde autour de moi. Moi, je me souviens, je parlais hier de ce groupe de divorcés que j'avais suscité à Saint-Germain-des-Prés quand j'étais curé. Je me souviens très bien de ce petit groupe qui avait porté, duquel avait surgi cette idée d'une proposition à des divorcés. Dans ce groupe, il y avait donc, comme je vous l'évoquais rapidement hier, tout un tas de profils différents. Et il y avait notamment deux couples très classiques. Saint-Germain-des-Prés, pour ceux qui connaissent un peu pareil, avec cette paroisse, quand même, c'est le cœur, c'est un des quartiers les plus riches de Paris, ou, bref, c'est un quartier de grande bourgeoisie, de grande aisance financière, de gens souvent assez puissants, assez. Et donc il y a deux couples très classiques, très sûrs d'eux-mêmes, hein, dans leur identité de couple marié, de parents responsables, de chrétiens engagés dans la cité, dans le monde, etc. etc. Et il y avait un couple divorcé, enfin un couple, dont lui était divorcé, c'était marié avec celle qui était là, son épouse. Et vraiment, les premières rencontres étaient, les échanges entre eux étaient très tendus, quoi. Parce que le couple classique renvoyait au couple divorcé en permanence l'image de leur marginalité, quoi. De leur, c'était pas bien, quoi. Et même c'est allé jusqu'à dire, mais c'était important qu'ils puissent se le dire aussi. C'est même allé jusqu'à dire, vous voyez, en fait, nous le problème, c'est que des gens divorcés, par exemple, on ne veut pas donner ça comme modèle à nos enfants. Donc on ne peut pas vous inviter à déjeuner chez nous ou à dîner chez nous. Et les autres en face, ils prennent ça dans la gueule, ils disent waouh. Bon. Et en même temps, ils disent, et ce qui est très très beau, c'est l'homme de ce couple pris la parole et leur a dit, en fait, je pense que je peux te comprendre. Mais ce n'est pas simple à entendre pour moi. Mais je comprends ce que tu veux me dire, que tu veux pour tes enfants ce que tu estimes le meilleur, et qu'évidemment tu ne veux pas qu'ils échouent dans leur mariage, parce que personne ne peut souhaiter à ses enfants d'échouer dans leur mariage. Et donc ça te fait peur que d'autres aient échoué, et donc que tu ne veuilles pas présenter à tes enfants adolescents ce genre de modèle, entre guillemets, de possibilité. Je le comprends, mais quand même, quoi. On n'est pas des monstres. On n'est pas des monstres. Et ce qui est très beau, c'est que, au bout de 4 ou 5 rencontres, c'est ce couple classique qui, le premier, m'a dit « Père, il faut que vous... » non, c'est facile, c'est vous. Hein, enfin, ouais, « Il faut que vous montiez un truc pour les divorcer. » C'est vraiment important. Vous voyez comment... Et pourquoi ils l'ont dit? Parce que, en fait, ils ont senti que... quand ils essayaient de manifester leur peur, ou quand ils avaient... Enfin, l'autre en face répondait sur un autre registre. Et c'est cet autre registre qui désarme. Mais moi, je pense... Enfin, ça vous paraît être un peu une digression, mais je ne pense pas que ça le soit. Je pense que, précisément, ce que l'Église révèle au monde, c'est la suprématie de la non-violence. Moi, je ne suis pas du tout un baba cool, peace and love, etc. Ce n'est pas du tout ma culture, ni mes habitudes, mais je pense profondément que l'Église, ce qu'elle a apporté dans le monde, c'est le témoignage que c'est la non-violence qui est le mot de la victoire, qui est l'attitude victorieuse. On méprise, mais ben c'est normal qu'on la méprise, parce qu'on adore dans le monde que ce qui est puissant, voilà, et glorieux. Et on méprise la non-violence, on a bien tort de la mépriser, parce que c'est la non-violence qui l'emporte. À chaque fois qu'une victoire est durable, c'est parce que c'est la non-violence qui l'a inscrite. À chaque fois. Et dans nos vies personnelles, parce qu'à l'échelle des nations, c'est toujours plus fragile, parce qu'on parle de multitudes humaines. Vous comprenez, quand on parle de Gandhi en Inde, on dit Gandhi a été. N'empêche que, les amis, il faut quand même un sacré courage. Hein. Quand vous voyez les images d'archives, ou même dans le film Gandhi, de ces foules d'Indiens qui arrivent devant les soldats britanniques en rangée et qui se font crosser, qui tombent, et les suivants qui s'approchent, qui s'avancent à leur tour et qui se prennent des coups de crosse, qui tombent, et les suivants, etc., qui y vont en sachant qu'ils vont se faire casser la gueule, il faut quand même un sacré courage physique. Hein. C'est pas du tout à la chair dans la violence. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a pas mal d'études, alors après, les études, elles valent plusieurs ce qu'elles valent, si on va faire dire ce qu'on a envie qu'elles disent. Mais quand même, il y a un historien néerlandais, là, il a écrit un gros pavé sur le bonheur, comment ça s'appelle ce bouquin, qui est un truc que j'ai lu au sortir du confinement, ça m'a donné une pêche incroyable de lire ce livre. Il faut que je retrouve le nom, parce que c'est vraiment un livre très positif. Alors, c'est sans doute très optimiste, mais et dans ce livre, il met en exergue le fait que contrairement à toutes les thèses ressassées, dans lesquelles on a grandi, on nous a enseigné l'homme est un loup pour l'homme et tout ce machin, etc. En fait, il montre à quel point, par plein d'exemples historiques, tout ça c'est pas vrai. Vous savez, il y a Sa Majesté des Mouches, c'est ça le bouquin qu'on a tous lu en 5e, 4e, quoi, qui est un bouquin des enfants qui s'échouent sur une plage, c'est ça, hein, c'est ce bouquin-là, hein, et qui s'entretuent. En fait, au bout d'une société qui devient hyper violente, etc., etc. Et donc, il dit, en fait, on a grandi tous avec cette certitude que des adolescents ou des enfants livrés à eux-mêmes se comporteraient très vite comme des... Bon, il dit ça, en fait, c'est juste un roman. Alors, il cherche dans l'histoire quels sont les exemples historiques, voilà, qui se rapprochent de ce roman. Il en trouve un, parce qu'en fait, heureusement, il n'y a pas eu tous les 15 jours des troupeaux d'enfants qui s'égaraient sur l'île désert pendant des années. Donc, et il y a un exemple où ici, dans les années 50 ou 60, il y a des pensionnaires en Nouvelle-Zélande qui s'échappent d'un pensionnat où ils étaient maltraités, ou bien pas si vous voulez aller mener la belle vie, ils partent en bateau, et puis leur bateau dérive, ils arrivent sur un atoll où ils vont rester plusieurs mois seuls. Et quand ils sont retrouvés bien des mois plus tard, une année ou deux ans plus tard, on s'aperçoit que, loin de s'entretuer, ils se sont constitués en société extrêmement fraternelle, hein, où le pardon est central entre eux. Et quand l'un fait du mal à l'autre, il est exclu pendant deux jours ou trois jours de la troupe, il va sur l'autre bout de l'île, le temps qu'il se repente, et il réintègre le groupe en se réconciliant avec celui qu'il a blessé. Ben, tout ça, en fait, c'est... Je dis ça parce que c'est très intéressant de voir qu'il dit aussi pendant la guerre de sécession, qui est la première guerre moderne de l'histoire occidentale, hein, qui a été une boucherie sans nom, voilà. En fait, il dit la boucherie, elle a été surtout liée à l'artillerie, parce que quand les hommes sont à portée de tir les uns des autres, ou à portée de baïonnette, ben, ils ont quand même beaucoup de mal à s'entretuer. C'est pas si naturel que ça. D'ailleurs, il le prouve en exhumant les fouilles d'archéologie dans les tranchées, où il montre que la plupart des fusils, en fait, sont même chargés plusieurs fois. Vous savez, à l'époque, il fallait mettre la poudre, puis la balle, puis encore de la poudre, puis on faisait la détonation et ça partait. Et en fait, il montre qu'il y a plein de fusils qu'on retrouve où il y a plusieurs balles entassées les unes sur les autres parce que les gars, en fait, ils ne tiraient pas. Parce qu'ils n'arrivaient pas à tirer. Et que quand on dénombre les morts de cette guerre, on voit que la plus grande partie des victimes blessées ou mortes, c'est dû à l'état de l'artillerie. C'est beaucoup plus facile d'envoyer des boulets de canon ou des missiles à des gens qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas que de tirer ou de rentrer dans l'art avec une baïonnette à des gens qui sont en face de soi. C'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, il faut être totalement bourré. C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est dans les tranchants 14, on saoulait les gars, et en 39 aussi, les Panzer, machin, les SS qui allaient faire, ils étaient totalement shootés. Enfin, moi, j'ai passé un an en Bosnie, comme je vous le disais hier, les milices moustachis, bosniaques, serbes, C'était des gros troupeaux d'alcooliques, toxicomanes, bien élevés. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre en étant sain. Je veux dire, sain dans son corps, quoi. Parce que monter au front, personne ne monte au front. On y monte une fois, quand on l'a fait une fois, on n'y remonte pas une deuxième fois sans avoir bu un litre de gnôle. C'est juste pas possible, en fait. Mais, bon, pardon de cette... mais c'est parce que, en fait, on a le sentiment que l'homme est fondamentalement capable du pire. C'est pas vrai. La non-violence que le Christ est venu instaurer dans le monde, qui est la plus grande révolution qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, c'est de dire que c'est l'amour qui triomphe. Pas l'amour fleur bleue, machin, etc. Un amour grave, un amour qui va jusqu'à donner sa vie. Et c'est cet amour-là que l'Église a mission de manifester au monde. Et donc c'est la manière dont vous vous aimez les uns les autres qui fera reconnaître au monde que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par les paroles que vous tiendrez. Ce n'est pas par les livres que vous écrirez. Ce n'est pas par les défilés que vous organiserez ou les processions que vous mettrez en place. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde vous reconnaîtra pour mes disciples. Et ça, vous voyez, c'est l'essentiel. C'est absolument l'essentiel. Alors après, que l'Église, comme société humaine, elle soit organisée, c'est assez normal, parce qu'il faut bien un principe d'organisation. Il n'y a pas de société anarchique qui puisse tenir. Ça ne marche pas. Mais, et c'est intéressant que, juste après ce chapitre 12, dans lequel Paul parle de ce corps du Christ qu'est l'Église, dont chacun est un membre, il enchaîne par le chapitre 13, qui est ce célèbre chant, enfin cette hymne à la charité. C'est-à-dire qu'il dit que qu'il y ait une organisation, voilà, que le corps soit composé de membres distincts les uns des autres, mais que la seule manière dont ce corps puisse être vivant, c'est parce qu'il accepte que circule en lui comme seul carburant, comme seule sève, comme seul sang, l'amour, la charité. La charité, pas l'amour d'ailleurs, la charité. Ce que Paul appelle la charité, ce que nous on a oublié dans notre langue chrétienne occidentale, ce qui d'ailleurs pour moi est un des signes de la dissolution du christianisme dans la pensée européenne, et singulièrement française, c'est quand on a remplacé le mot charité, parce qu'on trouvait que ça faisait trop d'âme patronesse, que ça avait un côté mon petit chéri, je vais m'occuper de toi, maman, je m'occupe de toi, etc. Par le mot solidarité, qui est un très beau mot, mais qui n'a absolument rien à voir. Parce que la solidarité, c'est donner à celui qui a faim de quoi manger. C'est faire preuve d'humanité. Être solidaire, c'est considérer que celui qui tombe, je le ramasse. Que celui qui a faim, je le nourris. Mais la charité, c'est faire cela en allant jusqu'à se donner soi-même. Et c'est bien plus puissant. Et donc, dès lors qu'on dit que ce qui était charité devient solidarité, ben, on se coupe, bon, en tout cas c'est comme ça que je comprends, on se coupe de la racine qui est le Christ. Voilà. Et on fait des actions humaines en les déliant de la source pour laquelle nous sommes appelés à les faire, qui est de suivre le Christ. Alors, j'ai aucun problème avec la solidarité, c'est formidable d'être solidaire. Je n'ai pas de problème là-dessus. Et c'est pas la même chose. Et donc, saint Paul le dit bien, donc chapitre 12, chapitre 13, vous êtes membres du corps du Christ, et le principe d'unité entre vous, c'est la charité. Vous pouvez parler toutes les langues du monde, vous pouvez avoir tous les charismes, vous pouvez avoir toutes les capacités, s'il vous manque la charité, vous ne servez à rien. C'est quand même extrêmement dur. Et ça résonne comme en écho à ce discours sur la montagne, où après les béatitudes, Matthieu 5, après les béatitudes, vous avez immédiatement ce passage sur « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Mais si le sel vient à s'affadir et à perdre son goût, il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Et, chers amis, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, vous ne servez plus à rien, et les gens le jettent dehors, et le monde le piétine. Moi, je dis, quand les gens me disent « Oh là là, le monde est méchant », je dis bah, « Le monde est méchant, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a quelques raisons de nous piétiner ?» Bien sûr qu'il y a une forme de justice, Bien sûr qu'on n'est pas tous totalement nuls. Ce n'est pas ce que je dis. Mais quand même, quand même. Est-ce que l'Église aujourd'hui, dans sa manière de se comporter par rapport au monde, elle ne se situe pas davantage comme un observateur critique de l'humanité, un peu en haut d'une montagne, qui regarderait ce qui se passe et qui déterminerait ce qui va et ce qui ne va pas, et qui poserait une parole définitive sur les uns et les autres? Ou bien est-ce qu'elle accepte de suivre le Christ jusqu'au cœur de cette humanité pour pouvoir y faire naître précisément cette promesse de la charité, et que les chrétiens ont à incarner pour de vrai là où ils sont? Nous avons à incarner la charité du Christ pour les hommes.
Et c'est très intéressant dans le livre de d'Arnaud Corbic, là, sur Bonhoeffer, parce que Bonhoeffer, dans les années 30, 35, 40, donc avec la montée du nazisme et l'arrivée au pouvoir du nazisme, perçoit ça et dit, en fait, nous entrons dans une société qui est une société irreligieuse. Pour la première fois dans l'humanité, la société européenne devient irreligieuse. C'est pas qu'elle est d'une autre religion, c'est qu'elle est, en fait, contre, sans religion. Il n'y a plus rien. Et donc, la notion même de religion l'exaspère. Irreligieuse. Et il dit, il n'y a qu'un pasteur luthérien pour oser dire une chose pareille. Un prêtre catholique aurait été excommunié dans la seconde qui suit, mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant de regarder ça de près. C'est qu'il dit, en fait, est-ce que quelque part, nous n'avons pas, nous aussi, non pas à accepter cela, mais à désirer demeurer au cœur de cette société irreligieuse, non pas en devenant nous-mêmes irreligieux, mais en descendant au cœur de cette société irreligieuse et en y déposant l'humble présence du Christ. Comme on dépose, comme le corps de Jésus est déposé en terre, après la croix, comme il accepte de reposer dans le sein d'une femme avant de naître à Bethléem. Voilà. Et comment est-ce que les chrétiens ont cette mission de pouvoir non pas transformer le monde, encore une fois, pour y faire, pour y sculpter le visage de Jésus, mais à accepter de descendre jusqu'où ils ont à descendre, au cœur de ce monde, pour que puisse y infuser le visage de Jésus. On a souvent confondu tout ce discours qu'on a entendu il y a quelques années sur être le levain dans la pâte. On l'a balayé d'un revers de main il y a une vingtaine d'années en disant c'est du défaitisme, c'est de la passivité, c'est de la facilité. Non, il faut être beaucoup plus proactif, beaucoup plus visible, beaucoup plus sonore, beaucoup plus. Voilà. On voit qu'au bout du compte, tout ça n'a pas été d'une efficacité redoutable. Hein. Et il est bon peut-être de se réinterroger, non pas en se disant être le levain dans la pâte, c'est se camoufler et ne rien faire, c'est bien plus compliqué que ça. C'est essayer d'être totalement disciple de Jésus-Christ en le laissant totalement faire. C'est-à-dire sans nous dire en permanence, je vais aider Jésus à être Jésus. Je vais faire en sorte que Jésus soit reconnu. Mais Jésus, il se débrouille très bien. Il sauve le monde, c'est pas moi qui sauve, c'est lui qui... Le monde, il est sauvé. C'est pas moi qui vais ressusciter les morts, c'est lui qui ressuscite les morts. Pas moi qui fais marcher les boiteux, qui fais rendre la vie aux aveugles, etc. C'est lui. Et donc, comment est-ce que... Et j'en reviens à ce que je disais hier, comment est-ce qu'à travers ce que je suis, je laisse le Christ transparaître. Oui, transparaître. Vous êtes le corps du Christ. Et voilà, alors je voulais terminer sur un passage que je trouve extrêmement beau et que je vous inviterai à lire. Je ne suis pas sûr que... problème fonctionne, décidément, avec ce machin, mais j'ai plus de batterie, donc c'est pas étonnant. Je comprends pourquoi ça marche pas, il capte pas. Pourtant, ça devrait capter. Ben oui, ça devrait capter. Il capte pas. Il a décidé d'être pénible, mais c'est le principe des machines. Ah, si, voilà. Donc, c'était un discours du pape François, donc, sur. Non, c'est pas ça. Alors, si, c'est Rio. Pendant les JMJ de Rio, voilà, c'est ça. Donc, c'était en juillet 2013. Il a rencontré les évêques du Brésil et il leur a fait un discours que je trouve absolument remarquable sur l'Église, et notamment en commentant devant eux l'épisode des disciples d'Emmaüs. Voilà. Et bon, donc vous connaissez cet épisode, hein, je ne vais pas le relire pour vous, vous le trouverez au chapitre 24 de l'Évangile de Luc. En gros, ces deux hommes, Cléophas et son compagnon, qui, trois jours après la mort de Jésus sur la croix, quittent Jérusalem et partent tristes, et sont rejoints en chemin, alors qu'ils quittent Jérusalem, par un troisième homme, qui se révélera à eux être Jésus et qu'ils ne reconnaissent pas, jusqu'à ce qu'à la croisée des chemins, ce troisième homme fasse mine de prendre un autre chemin que le leur, et qu'eux l'invitent à rester pour partager le repas dans cette auberge qui est là, à Emmaüs donc, et repas au cours duquel Jésus se manifestera à eux, en rompant le pain, ils le reconnaîtront, et aussitôt il disparaîtra à leurs yeux. Et donc le pape commande cet épisode, et je pense que c'est une bonne manière aussi de non pas de conclure, mais de terminer ce propos sur l'Église, corps du Christ, et sur notre responsabilité à nous chrétiens, dans le monde d'aujourd'hui, de pouvoir témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Les deux disciples, dit le pape, s'enfuient de Jérusalem. Ils s'éloignent. Ça aussi, il y a un problème, c'est que comme je deviens un vieillard, il faut que je mette des lunettes, sinon je vois rien. C'est compliqué, hein, tout ça. Voilà, on va y arriver. Ça ne m'était encore jamais arrivé depuis arriver à lire mon écran d'ordinateur.
C'est progressif.
Non, c'est, j'en suis pas encore là, cher ami. Je peux encore faire illusion. Alors, donc, les deux disciples s'enfuient de Jérusalem. Ils s'éloignent de la nudité de Dieu, donc le corps de Jésus mort, le cadavre mis en terre, etc. Ils sont scandalisés par l'échec du Messie, en qui ils avaient espéré et qui maintenant apparaît irrémédiablement vaincu, humilié, même après le troisième jour. C'est tout le mystère, dit le pape, le mystère difficile de ceux qui quittent l'Église. Je vous dis ça parce que peut-être autour de vous, vous avez des gens que vous connaissez qui ont quitté l'Église, ou qui quittent l'Église aujourd'hui. Des personnes qui, après s'être laissées illusionner par d'autres propositions, retiennent que désormais l'Église, c'est-à-dire Jérusalem, ne peut plus offrir quelque chose de significatif et d'important. Alors ils s'en vont, par les chemins, seuls, avec leurs désillusions. Peut-être l'Église est-elle apparue trop faible, peut-être trop éloignée de leurs besoins, peut-être trop pauvre pour répondre à leurs inquiétudes, peut-être trop froide dans leurs contacts, peut-être prisonnière de ces langages rigides. Peut-être le monde semble avoir fait de l'Église comme une survivance du passé, insuffisante pour les questions nouvelles. Peut-être l'Église avait-elle des réponses pour l'enfance de l'homme, mais non pour son âge adulte. Je reviens à ce que je disais hier soir sur comment grandir dans la foi et comment ne pas en rester à une foi enfantine, quoi. Le fait est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont comme les deux disciples d'Emmaüs, non seulement ceux qui cherchent des réponses dans les nouveaux et répandus groupes religieux, mais aussi ceux qui semblent désormais sans Dieu, que ce soit en théorie ou en pratique. Alors, face à cette situation, que faire? Il faut une Église qui n'a pas peur d'entrer dans leur nuit.
Il faut une Église capable de les rencontrer sur leur route. Il faut une Église en mesure de s'insérer dans leur conversation. Il faut une Église qui sait dialoguer avec ses disciples, qui, en s'enfuyant de Jérusalem, errent sans but, seuls, avec leur désenchantement, avec la désillusion d'un christianisme considéré désormais comme un terrain stérile, infécond, incapable de générer du sens. Continue, voilà. Et puis, il n'y a personne pour les accompagner et leur montrer par sa propre vie le vrai chemin. Beaucoup ont cherché des faux fuyants parce que la mesure qu'utilise la grande Église apparaît trop haute. On n'y arrivera jamais. Il y a aussi ceux qui reconnaissent l'idéal de l'homme et de vie proposé par l'Église, mais ils n'ont pas l'audace de l'embrasser, c'est trop compliqué. Je suis trop faible, trop petit. Ils pensent que c'est trop grand pour eux, en dehors de leurs possibilités, que c'est inaccessible. Face à ce panorama, il faut une Église en mesure de tenir compagnie, d'aller au-delà de la simple écoute. Une Église qui accompagne le chemin en se mettant en chemin avec les personnes. Une Église capable de déchiffrer la nuit contenue dans la fuite de tant de frères et sœurs de Jérusalem. Une Église qui se rend compte que les raisons pour lesquelles des personnes se sont éloignées contiennent déjà en elles-mêmes aussi les raisons d'un possible retour. Mais il est nécessaire de savoir lire le tout avec courage. Jésus réchauffe le cœur des disciples d'Emmaüs. Je voudrais que nous nous demandions tous aujourd'hui, sommes-nous encore une Église capable de réchauffer le cœur? Une Église capable de reconduire à Jérusalem, de réaccompagner à la maison? Dans Jérusalem habitent toutes nos sources, l'Écriture, la catéchèse, les sacrements, la communauté, l'amitié du Seigneur, Marie, les apôtres. Sommes-nous encore en mesure de raconter ces sources de façon à réveiller l'enchantement pour leur beauté? Beaucoup sont partis parce qu'on leur a promis quelque chose de plus haut, de plus fort, de plus rapide. Mais qu'y a-t-il de plus haut que l'amour révélé à Jérusalem? Etc. Enfin, je vous invite vraiment à lire ce texte. C'est 27 juillet 2013, vous trouvez ça aussi du Vatican. Discours aux évêques brésiliens. Et c'est vraiment un très très beau texte. Voilà. Voilà. Quelques mots donc sur l'Église. Il est 11h15, j'ai un peu dépassé. Mais j'ai commencé un peu en retard. Parce que, comme tu l'as dit, il fallait attendre les retardataires, n'est-ce pas, etc. J'ai bien compris le message. Voilà. Et donc, je voulais vous proposer, parce qu'il y a un groupe, c'est ça maintenant, hein, c'est ça, hein. Voilà. Alors, de reprendre un temps en groupe comme vous l'avez fait hier. Et avec deux questions qui valent ce qu'elles valent. C'est des questions, il faut toujours trouver des questions. Prenez pas beaucoup d'importance. Vivons-nous l'Église comme une communauté spirituelle, comme une institution hiérarchique, et puis l'autre question, c'est sommes-nous convaincus que l'Église est d'abord l'Église pauvre, l'Église au service des pauvres, l'Église des pauvres? Voilà.
Vous pouvez le répéter ?
Vous avez une heure, il faut trois pages. Alors, vivons-nous l'Église comme communauté spirituelle ou comme institution hiérarchique ? Et l'autre question, c'est sommes-nous convaincus que l'Église est d'abord l'Église pauvre, l'Église au service des pauvres, l'Église des pauvres, point d'interrogation.